VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson au sommaire ce 23 juin 2015.
Vaste opération policière en Côte d'Ivoire pour secourir des enfants victimes du travail forcé dans les plantations de cacao. Certains n'ont pas plus de 5 ans.
La société civile au Tchad se mobilise pour soutenir Djéralar Miankéol, militant des droits humains, détenu depuis 9 jours.
Le chanteur de reggae Tikenja Fakoly ne s'explique pas son refoulement à Kinshasa où il devait donner un concert.
C'est dommage parce que nous on partait juste faire de la musique, on n'avait pas d'armes.
Tikenja Fakoly était l'invité du RM Show de VOA Afrique.
Quant aux autorités congolaises, elles affirment ne pas avoir été officiellement informées d'une quelconque venue culturelle du chanteur ivoirien, mais plus encore.
Je crois que monsieur doit avoir eu un problème avec l'administration de la police des étrangers de notre pays.
Théophile Mbayo, directeur de cabinet du ministère de la Culture.
Des personnalités politiques américaines demandent le retrait du drapeau confédéré de l'enceinte du Parlement de Caroline du Sud après la tuerie de Charleston.
Et avant la Minute Écho, les sports, voici les infos.
Dans le nord du Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lundi à Maïdougouri dans un attentat suicide dans un marché près d'une mosquée. Des témoins disent qu'une deuxième kamikaze est morte quelques minutes plus tard sans faire de victime. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les extrémistes islamistes de Boko Haram ont souvent visé des civils dans les marchés et stations de bus à Maïdougouri au cours de leur insurrection de 6 ans.
En Côte d'Ivoire, près de 50 enfants victimes de trafic ont été secourus lors d'une vaste opération policière dans les plantations de cacao. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
L'opération a mobilisé plus de 100 policiers, gendarmes et des agents des eaux et forêts les 4 et 5 juin dernier dans les plantations de cacao de San Pedro, situées dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette descente surprise, encadrée par Interpol, a permis d'arrêter une centaine de personnes suspectées de trafic d'enfants. Originaires du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du nord de la Côte d'Ivoire, 48 enfants âgés de 5 à 16 ans ont été secourus. Ces victimes étaient utilisées comme ouvriers dans les riches plantations de San Pedro, qui abrite également le premier port de cacao au monde. D'après un communiqué d'Interpol, ces enfants travaillaient dans des conditions extrêmes, particulièrement dangereuses pour leur santé. 22 trafiquants ont été déférés devant les tribunaux, s'est félicité le préfet de police qui a chapeauté l'opération. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est considérée comme une importante destination régionale du trafic d'enfants en provenance des pays frontaliers afin de travailler dans ces cultures. Le pays s'est engagé depuis quelques années à éliminer le fléau du travail des enfants dans les plantations, notamment par la voix de la première dame Dominique Ouattara.
Centrafrique, l'ONU a nommé une ancienne magistrate canadienne à la tête de la commission chargée de l'enquête indépendante sur la gestion de l'affaire de viol présumé d'enfants par des soldats français et africains. Eddie Isango.
La magistrate Marie Deschamps aura des autres membres à ses côtés. Hassan Jallo de la Gambie, procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda, et Yasmine Sohok, directrice de la Fondation pour les droits de l'homme en Afrique du Sud. Selon Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, ces experts travailleront de manière indépendante et auront libre accès aux documents et au personnel de l'ONU. Madame Deschamps avait remis en avril à son gouvernement un rapport sur les agressions sexuelles au sein des forces armées canadienne. Les personnes qui accepteront de témoigner devant la commission seront protégées des représailles selon Dujarric qui les a encouragées à contacter les experts directement. La commission commencera son travail en juillet et espère rendre ses conclusions dans un délai de 10 semaines. L'ONU est critiquée pour sa lenteur à répondre à des allégations d'abus sexuels très graves commis sur des enfants en République centrafricaine entre décembre 2013 et juin 2014 impliquant 14 soldats français. Ces derniers font l'objet d'une enquête judiciaire en France. L'ONU avait sanctionné un fonctionnaire qui avait de sa propre initiative transmis un rapport aux autorités françaises pour les alerter. Des enfants âgés de 8 à 13 ans auraient témoigné avoir été violés par des soldats français, mais aussi tchadiens et équato-guinéens.
Au Ghana, affrontement hier à Accra entre des habitants d'un quartier pauvre et des policiers suite à la destruction de constructions anarchiques. Une opération qui, selon la municipalité, s'inscrivait dans le cadre des mesures de lutte contre les inondations. Des précisions avec Issia Kaba.
C'est au quartier Old Fadama d'Accra, communément appelé Sodome et Gomorre, que les heurts ont eu lieu. Quelques 600 000 personnes y vivent, près d'une station-service où un incendie avait récemment tué 150 personnes qui s'y abritaient de la montée des eaux. Hier, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants déchaînés. Selon la police, que cite l'AFP, quelques agents ont été blessés et une vingtaine de personnes arrêtées. Suite aux inondations qui ont dévasté la capitale ghanéenne en début de mois, le maire Alfred Van Der Puige a déployé des bulldozers pour tenter de remédier à la situation. Les constructions illégales et les dépôts d'ordures entravent l'évacuation des eaux de ruissellement et contribuent au désastre, a souligné de son côté le président ghanéen John Dramani Mahama. L'opération lancée par la municipalité a fait de nombreux sans-abri qui ont exprimé leur colère en marchant vers le Parlement et en vandalisant un bus et du mobilier urbain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, doit rencontrer ce mardi en Estonie les ministres de la Défense de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Il rencontrera les ministres de la Défense de l'OTAN mercredi et jeudi à Bruxelles pour discuter des plans pour faire face à la Russie après son annexion de la Crimée et son soutien militaire aux séparatistes ukrainiens. Ashton Carter a l'intention de soutenir une proposition américaine d'envoyer suffisamment de chars et d'autres équipements militaires pour des exercices et former une brigade en Europe de l'Est.
Les responsables du Kremlin ont dénoncé la décision de l'Union européenne de prolonger les sanctions économiques contre la Russie pour une période supplémentaire de 6 mois. La mesure a été prise pour maintenir la pression sur Moscou par rapport au conflit dans l'est de l'Ukraine. Nous sommes profondément déçus de constater une fois de plus que l'opinion du lobby russophobe qui a poussé à la décision d'étendre les restrictions illégales et dominé dans l'Union européenne, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Alexandre Loukachevitch. Le gouvernement russe a déclaré qu'il riposterait avec une extension de contre-sanctions en réponse à la décision prise au Luxembourg par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.
Les nouvelles propositions de la Grèce améliorent ses chances de parvenir à un accord avec ses créanciers et d'éviter un défaut de paiement à la fin du mois. Le président de l'Union européenne, Donald Tusk, a déclaré lundi soir que de nouvelles réformes du système de retraite et de TVA grec sont les premières propositions réelles depuis plusieurs semaines. Le ministre néerlandais des Finances, Jeroen Dijsselbloem, a estimé que cela pouvait être l'occasion de conclure un accord d'ici la fin de la semaine. Les ministres des Finances de la zone euro se réuniront à Bruxelles plus tard cette semaine pour discuter des nouvelles propositions grecques. La Grèce doit faire un paiement de près de 2 milliards de dollars pour le Fonds monétaire international d'ici à la fin du mois.
Ici, aux États-Unis, plusieurs personnalités politiques ont demandé le retrait du drapeau confédéré de l'enceinte du Parlement de la Caroline du Sud. Le dernier appel, et peut-être le plus important, a été lancé lundi après-midi par la gouverneure de l'État, Nikki Haley. Timothée Donangmaï nous en dit plus.
Bien imbue de la controverse que suscite ce drapeau, Mme Haley a pris le soin de rappeler la valeur historique que certains confèrent encore à ce symbole de l'ère esclavagiste ici aux États-Unis. Pour de nombreuses personnes, ce drapeau signifie des traditions qui sont nobles, des traditions d'histoire, de patrimoine et d'ancienneté, a rappelé la gouverneure tout en ajoutant que pour beaucoup d'autres, en Caroline du Sud, il est le symbole d'un passé brutalement tyrannique. Auparavant, le maire de Charleston, la ville où un jeune suprémaciste blanc de 21 ans a tué 9 noirs la semaine dernière dans une église, avait déclaré qu'il est temps pour le drapeau des sécessionnistes de la guerre civile américaine d'être relégué dans un musée. Le candidat républicain Lindsey Graham, qui représente la Caroline du Sud au Sénat américain, s'est fait l'écho de telles déclarations, demandant lui aussi que le drapeau confédéré ne flotte plus dans la cour du Parlement régional. La mesure requiert un vote des élus de l'État et la gouverneure Nikki Haley a pris l'engagement, dans son discours hier après-midi, de tout faire pour que ce vote ait lieu durant l'été. Par ailleurs, la Maison-Blanche a annoncé que le président Barack Obama et le vice-président Joe Biden se rendront vendredi à Charleston pour les funérailles du pasteur Clement Pinckney de l'église Emmanuel AME Church, l'une des 9 personnes tuées par le jeune Dylan Roof mercredi dernier.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco vous est présentée par Idrissa Seydoudia.
Les pouvoirs publics camerounais ont débloqué 28,3 milliards de francs CFA au titre des subventions au gaz domestique en 2014, selon les chiffres publiés lundi par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, le régulateur du secteur au Cameroun. Une subvention qui intervient dans un contexte de fluctuation du marché avec une augmentation de 14% de la consommation du gaz domestique au Cameroun. La baisse de la production de phosphate au Sénégal enregistrée durant le premier trimestre 2015 s'est poursuivie durant les 4 premiers mois de 2015, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de la prévision et des études économiques. Cette production s'est établie à 304 600 tonnes contre 443 000 tonnes durant les 4 premiers mois de l'année 2014, soit une régression de 31,2%. Le groupe pétrolier britannique Tullow Oil a annoncé lundi le règlement d'un long contentieux fiscal avec les autorités ougandaises, acceptant de débourser 250 millions de dollars. La justice ougandaise avait ordonné en juillet au groupe de payer 407 millions de dollars au titre de la cession d'actifs aux firmes françaises Total et chinoises CNOC. L'Ouganda a découvert en 2006 d'importantes réserves de brut dans le bassin du lac Albert le long de sa frontière occidentale avec la République démocratique du Congo, susceptible de profondément modifier l'économie du pays et de doubler le revenu national.
Merci Idrissa Seydoudia pour la Minute Éco. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Le premier tour aller des éliminatoires du CHAN 2016 a eu lieu ce week-end. Le Sénégal a le sourire.
Victoire 3-1 contre les voisins gambiens, les Lions de la Teranga démarrent mieux que le Mali accroché en Guinée-Bissau un partout. Et dans la zone centre-est, le Burundi a été battu par Djibouti 2-1. La Tanzanie sèchement battue par l'Ouganda 3-0.
La sélection tanzanienne qui perd son sélectionneur.
La fédération tanzanienne a décidé d'écarter Mart Noij. Le Néerlandais paie aussi une défaite 3-0 en Égypte lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Noij est le troisième sélectionneur viré en Afrique après Young Shimodzi du Malawi et Shao Shisano du Mozambique.
Gros chèque à venir pour les joueuses chinoises de la Coupe du Monde féminin au Canada.
La Chine va verser à son équipe le plus important bonus de son histoire en récompense de la qualification pour les quarts de finale du tournoi. Selon l'agence officielle Jinchu, le bonus d'environ 1 million de yuan, 144 000 euros, sera donné aux joueuses qui se sont qualifiées pour les quarts de finale en battant le Cameroun 1-0, c'était dimanche.
Et la Chine affrontera en quart de finale les États-Unis qui ont battu la Colombie lundi par 2-0. Autre Coupe du Monde 2018 en Russie.
Et le budget du mondial russe a été réduit de près de 30 milliards de roubles, soit 490 millions d'euros, annonce du gouvernement russe dans un décret. Aucune raison n'a été fournie par Moscou, mais la Russie est confrontée à une grave crise économique et financière causée par la chute des cours du pétrole et les sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne.
Copa América, le Brésil se qualifie mais perd Neymar.
Le Brésil a bouclé la phase de poule en tête de son groupe en battant le Venezuela 2-1. Dans la nuit de dimanche à lundi, le staff technique et le capitaine du Brésil, Neymar, ont décidé de ne pas faire appel de la suspension pour 4 matchs du joueur vedette du Brésil. Il devrait quitter ce lundi la délégation brésilienne.
Merci beaucoup Nicolas pour les sports.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique.
Voice Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Les militants des droits humains au Tchad se mobilisent en soutien à Djeralar Miankéol, membre de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, détenu depuis le 15 juin à Moundou, dans le sud du pays. Son association Ngaou Burandi lutte contre l'accaparement des terres des agriculteurs. Il est poursuivi pour outrage à magistrat et dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé dans une interview à la radio la corruption des magistrats dans le domaine foncier. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena Pirrus Banadji Baogel, porte-parole de la coalition Trop c'est trop.
En fait, c'est des problèmes liés aux problèmes de conflits d'agriculteurs, des nouveaux riches qui accaparent des terres au niveau des dessus, qui achètent des terrains, semble-t-il, pour leur bétail. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Lui, comme son organisation est en train de lutter dans ce sens, et comme ça qu'il a dû dénoncer ce phénomène qui sévit ces derniers temps. Et non seulement à N'Djamena, mais il se trouve que, à Moundou, ce phénomène qui sévit un peu partout autour de N'Djamena, tout le long du fleuve Chari, etc.
Qui sont derrière ce phénomène?
Ce qu'on sait, c'est que les études ont démontré que c'est des généraux qui arrachent ces terres, les propriétaires de bétail. En fait, on le met dans le vocable global des nouveaux riches qui apparaissent ces derniers temps. Il y a les autoritaires de Sassi, il y a les généraux de l'armée et tous ceux qui ont de l'argent qui achètent des terres. On ne sait pas dans quelle vision, mais c'est comme ça que ça se passe.
Quel est cet aspect du rôle des magistrats que dénonce l'activiste Djeralar?
Souvent, les propriétaires terriens se plaignent auprès des autorités. Ils ne trouvent pas bien de cause. Et ils sont souvent encouragés pour porter l'affaire devant la justice. Malheureusement, de ce côté-là, ils ne trouvent pas aussi bien de cause. Comme vous le savez, les gens, ils ont de l'argent, donc la justice, ces derniers temps, n'est rendue qu'en faveur de celui qui a l'argent. C'est comme ça qu'on présume que les magistrats sont corrompus et l'affaire le plus souvent est rendue en faveur de ceux-là qui achètent des terres.
Que disent les autorités nationales à ce sujet?
Le phénomène a été dénoncé non seulement par le responsable de l'association Gabrandi, mais les associations de défense des droits de l'homme de manière générale ne cessent de le dénoncer, mais il n'y a pas de suite. Malgré les différentes assises, malgré les séminaires qui sont organisés, il n'y a pas de réaction énergique tendant vraiment à combattre ce phénomène. Donc c'est ça qui quelquefois fait qu'on considère les autorités administratives d'être elles aussi complices de ce phénomène qui se passe.
C'était Pirrus Banadji Baogel, porte-parole de la coalition Trop c'est trop au Tchad.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le refoulement à l'aéroport de Kinshasa du célèbre chanteur de reggae ivoirien Tikenja Fakoli, vendredi, a fait beaucoup de bruit dans le milieu artistique sur le continent. Il devait chanter dans la capitale congolaise après avoir donné un concert à Goma en février dernier devant 15 000 personnes. Hier, il était l'invité de Roger Muntu dans le RM Show de VOA Afrique.
Je ne pense pas que ça allait être dans un pays africain quand même, parce que voilà, sur le continent africain, ça fait longtemps que nos parents, nos ancêtres ont parlé de l'unité africaine. Lumumba, Kwame Nkrumah. Voilà, on ne pensait pas que ça allait arriver en 2015, sur tout ça, voilà.
Mais il faut dire aussi, Tiken, qu'un pays est régi de loi, donc ils ont le droit de refouler si vous n'êtes pas en ordre, par exemple, vous, votre groupe. Sûr. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Tikenja Fakoli?
Bien sûr, je pense qu'ils ont le droit de nous refouler. Hein. Tous les pays africains ont des lois, tous les pays du monde ont des lois. Sauf que là, nous, on avait un visa, on partait pour un festival, il y avait plusieurs groupes, il y avait deux ou trois groupes, on avait le même visa, et donc, sauf que nous, on a été stoppé à l'aéroport et qu'ils sont entrés. Et c'est dommage parce que nous, on partait juste faire de la musique. On n'avait pas d'armes, on n'avait que la musique. Et puis bon, malheureusement, on nous a empêchés de jouer de la musique et de chanter.
Et Tikenja, alors, vous avez même joué à Goma, je crois, en février, n'est-ce pas?
Exactement. Voilà. On avait le même visa. Moi, je pense que c'est une censure, simplement. On a eu peur, peut-être, du reggae, qui est une musique d'éveil de conscience, qui est une musique qui a décidé, en tout cas, de prendre position depuis Bob Marley. Et donc, je pense qu'on a simplement eu peur du reggae, parce que nous étions le seul groupe reggae dans tous les groupes qui devaient aller pour ce festival. Sinon, effectivement, on est allé à Goma, ça s'est bien passé, on a joué devant 15 000 personnes. Et là, on nous a empêchés de rentrer.
Et Tiken, comme vous le dites, c'était avec le même type de visa, c'est ça?
Oui, c'est avec le même type de visa, puisque nous, on a le courrier que de demande de visa que les organisateurs ont adressé à l'ambassade du Congo à Paris. Donc voilà, on a demandé, et tout est détaillé. Il est écrit qu'on doit aller pour faire des concerts, donc on ne s'est pas caché du tout. Puis que lorsqu'on a fait la demande de visa, on a quand même demandé des visas pour aller faire ce festival. Mmh. Donc je pense que c'est dommage, parce qu'on a beaucoup de fans à
Kinshasa,
au Congo, en Afrique centrale. Hein.
Oui.
Donc, on a eu les preuves quand on est passé à Goma et au Rwanda en février. Et donc, on s'attendait qu'on allait voir nos fans cette fois-ci, parce que la dernière fois que nous sommes passés à Kinshasa, c'était en 2004. Donc, ça fait plus de 10 ans. Donc, mais c'est dommage. Vous savez, c'est la République démocratique du Congo, hein, ça veut tout dire. Un pays démocratique, ça veut dire liberté d'expression, ça veut dire respect de tous les citoyens. Donc, je pense que, nous, on allait chanter, on allait peut-être s'exprimer, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre qui que ce soit.
C'était le chanteur de reggae ivoirien Tiken Jafakoli dans un extrait du RM Show de VOA Afrique. Pourquoi a-t-il été refoulé sur le sol congolais ? Roger Muntou a posé la question à Théophile Mbayo, le directeur de cabinet du ministre de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo.
Bon, écoutez, monsieur est venu à Kinshasa, je crois, dans le cadre de ses activités professionnelles. Il n'a pas été invité officiellement par le gouvernement ni par le ministère, non. Il est venu dans le cadre strictement privé. Et donc, de ce point de vue, le ministère n'avait rien à voir dans son arrivée ni dans l'organisation de tout ce qu'il avait à voir comme activité sur place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut retenir est que, je crois, monsieur doit avoir eu un problème avec l'administration de la police des étrangers de notre pays. Vous savez, la police des étrangers dans notre pays, en République démocratique du Congo, est gérée par le ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de Culture et d'Art ne pouvait pas et ne peut pas à chaque instant aller demander qu'est-ce qui se passe au niveau de la police des étrangers pour tous ces gens qui arrivent. Donc, voilà la situation telle que nous la comprenons et telle qu'elle se passe à notre niveau.
Selon certains organisateurs d'événements culturels dans votre pays, la RDC, il est extrêmement difficile de faire venir des représentants du monde des arts en RDC depuis le 15 mars. Ce jour-là, une trentaine de personnes, parmi lesquelles trois membres du groupe de rap sénégalais Yann Amar et un activiste de la société civile burkinabé, avaient été arrêtés lors d'une réunion sur la bonne gouvernance en Afrique. Pensez-vous qu'il y a un lien ?
Je ne pense pas du tout de toutes ces choses. D'abord, l'affirmation, elle n'est pas correcte. Moi, je peux vous affirmer qu'il y a énormément des opérateurs culturels qui viennent de par le monde à l'RDC. Depuis toute cette période dont vous parlez, je peux vous dire que moi, j'ai vu un groupe brésilien avec Angolais, des acteurs de film qui étaient ici. Ça a été quelque chose de très intéressant. Il y a énormément de gens qui arrivent ici. Je pense que ça, ce sont des affirmations qui ne sont pas tout à fait correctes.
Les fans de l'artiste qui nous écrivent sur la toile ou sur les réseaux sociaux pensent que tout ceci est tout simplement dû parce que l'artiste est habitué à dénoncer dans ses chansons les souffrances et l'injustice dont souffrent les millions d'Africains.
Je ne connais pas ces choses-là, monsieur. Je ne veux vraiment pas commenter toutes ces choses, mais une chose que je peux vous dire est que notre pays est un pays qui a énormément d'activités culturelles. La République démocratique du Congo, vous le savez, est un des grands pays du secteur du monde de culture, particulièrement la musique et beaucoup d'autres choses. Donc, ça n'a rien à voir, il ne faut pas que les gens affirment des choses pareilles, ça n'a rien à voir. Il est tout à fait possible que des personnes puissent avoir des problèmes avec la police des étrangers, c'est des choses aussi normales.
Cet été, au film Bayo, le directeur de cabinet du ministre de la Culture et des Arts de la RDC.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a averti que la menace que constitue la Russie gagne en proportion et ne se limite plus seulement à l'Ukraine. Le chef du Pentagone a promis, au cours d'une tournée dans les pays alliés de l'OTAN, une réponse adéquate à Moscou. Des précisions avec Michel Joseph.
L'exercice militaire de l'OTAN, Noble Jump, qui s'est déroulé la semaine dernière en Pologne, a été conçu pour ressembler à la guérilla menée dans l'est de l'Ukraine par les séparatistes pro-russes. Il a été effectué en prélude à la visite du secrétaire à la Défense, Carter, en Europe. C'est le premier exercice complet de la force d'intervention rapide conçue pour être déployée en 48 heures. S'exprimant à Berlin, ville autrefois divisée et qui symbolise la guerre froide, Ashton Carter a fait savoir que l'Occident ne cherchait pas une nouvelle confrontation avec Moscou. Nous allons défendre nos alliés, l'ordre international fondé sur des règles et l'avenir radieux qu'ils nous réservent. Nous allons nous opposer aux actes de la Russie et leur tentative de rétablir une sphère d'influence du type de l'ère soviétique. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la semaine dernière que Moscou va ajouter 40 missiles balistiques à longue portée à son arsenal nucléaire. Monsieur Carter a déclaré que c'est bien la preuve que la menace de la Russie prend du relief. L'Ukraine est seulement une partie de nos préoccupations par rapport à la Russie. En réponse, nous adoptons une approche stratégique, solide mais équilibrée, une approche qui vise à garantir que la Russie ne peut pas forcer quelqu'un à se tourner vers le passé, tout en encourageant la Russie à faire marche arrière et à se tourner vers l'avenir. Dans notre réponse, nous n'entendons pas recourir aux règles de la guerre froide.
We will not rely on the Cold War playbook.
Monsieur Carter a déclaré que les nouvelles règles de jeu établies par l'OTAN devraient permettre de reconnaître le rôle positif de Moscou, par exemple dans les négociations nucléaires avec l'Iran. Toutefois, l'organisation reste vigilante pour répondre à toute agression de la Russie. L'article 5 de l'OTAN, pierre angulaire de l'accord de défense des alliés, est actuellement mis à l'épreuve des nouvelles stratégies de guerre du 21e siècle, selon l'analyste David Cadier de l'Institut IDEAS, basé à la London School of Economics. Cela a été valable quand les invasions étaient l'affaire de chars qui franchissaient les frontières. C'est un peu moins clair maintenant. Qu'en est-il des cyberattaques? Qu'en est-il des guerres hybrides, comme ce qui se passe en ce moment en Ukraine, dit-il. Les membres de l'OTAN les plus proches de la Russie, dont les États baltes et la Pologne, ont fait pression pour un plus grand déploiement de troupes sur leur territoire, affirme Cadier. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a averti que la capacité de réponse de l'organisation est en danger. En cause, la baisse de la contribution budgétaire des États membres de 1,5% d'ici l'automne 2015. Nous avons besoin de redoubler nos efforts pour inverser cette tendance parce que nous sommes confrontés à plusieurs défis et nous ne pouvons pas faire plus avec moins indéfiniment. Le secrétaire américain à la Défense s'est fait l'écho de ces préoccupations et a exhorté les membres de l'OTAN à se conformer à l'engagement pris de consacrer 2% de leur PIB à la Défense. Monsieur Carter se rendra en Estonie, puis à Bruxelles pour une réunion de l'OTAN mercredi.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon mardi à toutes et à tous.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.